Je suis sorti de la ville par la 7, ralentissant à chaque intersection pour bien vérifier des deux côtés si la voie était libre. Sage précaution. Un camion chargé de gravats grillait un feu rouge au croisement de la 7 et de l'ancienne route de Derry. Si je m'étais pas arrêté au lieu de passer tranquillement au vert, ma Ford aurait été ratatinée et moi transformé en steak haché à l'intérieur. J'ai klaxonné à fond malgré mon mal de tête, mais le chauffeur n'y a prêté aucune attention. Il avait l'air d'un zombie derrière son volant. Oh, je vais pas être capable de le faire, je me répétais. Mais si j'étais pas capable d'arrêter Frank Dunning, comment même espérer arrêter Oswald? Pourquoi seulement me fatiguer à aller à Dallas? C'est pas ça qui m'a incité à continuer, cependant. C'est de penser à Touga et aux trois autres enfants. Je les avais déjà sauvés une fois. Si je ne les sauvais pas une nouvelle fois, comment pourrais-je échapper à la sûre certitude d'avoir été complice de leur meurtre, simplement en déclenchant une nouvelle remise à zéro? Au niveau du cinéparc de Derry, je me suis engagé dans l'allée menant au guichet, fermée à 7 heures. Je me suis garé derrière les sapins décoratifs qui l'abordaient, j'ai coupé le moteur et voulu sortir de la voiture. Impossible. La portière refusait de s'ouvrir. J'ai essayé de la forcer à grands coups d'épaule, mais rien à faire. Puis j'ai remarqué que le loquet était baissé. Ce n'était pourtant pas l'époque des voitures à verrouillage automatique et je n'avais absolument pas baissé le loquet moi-même. J'ai tiré dessus, en vain. Je me suis excité dessus, en vain. J'ai donc baissé ma vitre et, en me penchant au dehors, réussi à introduire la clé dans le petit bouton poussoir chromé de la poignée. Cette fois, le verrou s'est soulevé. Je suis descendu, puis je me suis penché à l'intérieur pour récupérer le coussin souvenir. La résistance au changement est proportionnelle aux répercussions que tel ou tel acte risque d'avoir sur le futur. Je l'avais expliqué à Hal de mon plus beau ton professoral. Et c'était vrai. Mais je n'avais alors aucune idée du prix personnel qu'il y aurait à payer. Maintenant, je le savais. J'ai longé lentement la route 7, mon col relevé pour me protéger de la pluie et mon chapeau bien enfoncé sur les oreilles. Quand je croisais des voitures, peu nombreuses, je me rabattais sous les arbres bordant mon côté de la chaussée. Je crois qu'à une ou deux reprises, j'ai appliqué mes mains sur les côtés de ma tête pour m'assurer qu'elles n'étaient pas en train d'enfler. C'était de fait la sensation que j'avais. Enfin, les arbres cédèrent la place à un mur de pierre. Au-delà s'étendaient des collines impeccablement entretenues, parsemées de stèles et de monuments. J'étais arrivé au cimetière de Longview. En avançant encore, j'ai aperçu le stand de fleurs de l'autre côté de la route. Il était fermé. Les samedis et dimanches étaient généralement des jours de visite aux défunts, mais par un temps pareil, les affaires seraient calmes, et je présumais que la vieille dame qui tenait le stand en profitait pour dormir un peu. Mais elle ouvrirait plus tard. Je le savais pour l'avoir déjà vue. J'ai escaladé le mur, m'attendant à ce qu'il s'écroule sous mon poids, mais il a tenu bon. Et lorsque mes pieds se furent posés sur le sol du cimetière, une chose formidable se produisit. Ma migraine commença à refluer. Je me suis assis sur une tombe ombragée par un orme. J'ai fermé les yeux pour estimer l'intensité de ma douleur. Si elle était montée auparavant jusqu'à un 10 assourdissant, peut-être carrément un 11, comme sur l'ampli des Spinal Tap, elle était maintenant redescendue à 8. Ça y est, Hal. Je crois que ça y est. Je pense avoir forcé le barrage et être de l'autre côté. J'avançais quand même avec précaution, attentif au moindre piège. Une chute d'arbre, des pilleurs de tombe, même une météorite en feu. Mais rien. Le temps que j'atteigne les tombes voisines d'Althea Pierce Dunning et James Allen Dunning, ma migraine était tombée à 5. J'ai regardé autour de moi et aperçu un mausolée portant un nom familier gravé dans son granit rose, Tracker. Je me suis approché et j'ai poussé le portail en fer. En 2011, il aurait été verrouillé. Mais on était en 1958 et il s'est ouvert facilement. Non sans un long grincement, tout droit sorti d'un film d'épouvante. J'y suis entré, écartant à coups de pied un entassement de feuilles mortes. Un banc de méditation en pierre occupait la ligne centrale sous la voûte. De part et d'autre s'étageaient des compartiments en pierre destinés à une lignée tracker remontant à l'année 1831. La première plaque en cuivre à poser indiquait que les restes de Mr. Jean-Paul Tresch y reposaient. J'ai fermé les yeux. Me suis allongé sur le banc de méditation et assoupi. Disons plutôt endormi. Quand je me suis réveillé, il était près de midi. Je me suis levé pour aller attendre Dunning, embusqué à l'entrée du mausolée des Trackers. Tout comme Oswald attendrait probablement le cortège présidentiel dans 5 ans, embusqué au 5e étage de la Texas School Book Depository. Ma migraine avait disparu. La Pontiac de Dunning arriva approximativement au moment où Red Schoendienst marquait le point de la victoire pour les Braves de Milwaukee. Il la gara dans l'allée la plus proche, en descendit, releva son col et se pencha de nouveau à l'intérieur pour attraper les paniers de fleurs. Il descendit la pente vers la tombe de ses parents, un panier dans chaque main. Maintenant que l'heure était venue, je me sentais plutôt bien. J'avais réussi à surmonter tout ce qui s'était mis en travers de mon chemin. Le coussin souvenir était caché sous mon manteau, ma main à l'intérieur. L'herbe mouillée étouffait le bruit de mes pas et il n'y avait pas de soleil pour projeter mon ombre. Dunning ne s'est aperçu de ma présence que lorsque j'ai prononcé son nom. Il s'est retourné. « J'aime pas qu'on me dérange quand je viens voir mes parents, » dit-il. « Et qui vous êtes d'abord ?» Et qu'est-ce que c'est que ça ? » Il montrait le coussin que j'avais sorti et qui couvrait ma main comme un gant. J'ai décidé de ne répondre qu'à la première question. « Je m'appelle Jake Epping. Je suis venu vous demander quelque chose. » « Alors allez-y et fichez-moi la paix !» La pluie dégoulinait de son chapeau, du mien aussi. « Qu'y a-t-il de plus précieux dans la vie, Dunning ?»«
Quoi ?»
Pour un homme, je veux dire.
Vous êtes cinglé ou quoi? Et qu'est-ce que vous fabriquez avec ce coussin?
Faites-moi plaisir, voulez-vous. Répondez à ma question. Il haussa les épaules.
La famille, j'imagine.
C'est ce que je pense aussi, dis-je en appuyant 2 fois sur la détente. La première détonation ne fut qu'un petit choc étouffé, comme quand on frappe un tapis avec un battoir pour le dépoussiérer. La seconde résonna un peu plus fort. J'ai cru que le coussin allait prendre feu. J'avais vu ça dans le Parrain 2. Mais il a juste un peu brûlé. Dunning s'est effondré, écrasant dans sa chute le panier de fleurs qu'il avait posé sur la tombe de son père. Je me suis agenouillé à côté de lui, faisant sourdre de l'eau de la terre détrempée sous mon genou. J'ai posé ce qui restait du coussin sur sa tempe et j'ai tiré une dernière fois. Juste au cas où. J'ai traîné son corps à l'intérieur du mausolée et laissé le coussin brûlé posé sur son visage. Quand je suis reparti, 2 ou 3 voitures roulaient lentement dans le cimetière et quelques visiteurs abrités sous des parapluies se recueillaient sur des tombes. Personne n'a prêté la moindre attention à moi. Sans me presser, je suis retourné vers le mur de pierre, m'arrêtant de temps à autre pour regarder une tombe ou un monument. Une fois caché par le rideau d'arbre, j'ai couru vers ma Ford. Quand j'entendais des voitures approcher, je me dissimulais dans le sous-bois. J'en ai profité pour y enterrer mon arme sous 30 cm de terre et de feuilles. La Sunliner m'attendait tranquillement où je l'avais laissée et elle démarra au quart de tour. Je suis retourné à mon appartement en écoutant la fin du match. Il me semble avoir pleuré un peu. Mais c'était des larmes de soulagement, pas de remords. Peu importe ce qui m'arriverait, la famille Dunning était saine et sauve. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Le lundi, dans le Daily News de Derry, il n'y en avait que pour les séries mondiales, avec notamment un joli cliché de Sean Dienst marquant le point de la victoire après l'erreur fatale de Tony Kubek. Selon l'article de Red Barber, les Bombers du Bronx étaient fichus. « Et ils sont cuits », affirmait-il. « Les Yanks sont morts, vive les Yanks !» Rien sur Frank Dunning en ce début de semaine. Mais dès le mardi, il faisait la une du Daily News avec photo à l'appui, sourire de séducteur et regard ensorceleur à la George Clooney compris. Assassinat au cimetière de Derry. La victime, Frank Dunning, était connue pour ses nombreuses actions caritatives. À en croire le chef de la police de Derry, ces hommes suivaient toutes les pistes et une arrestation était attendue sous peu. Interrogée par téléphone, Doris Dunning se déclarait « sous le choc et effondrée ». Aucune allusion au fait que celle-ci et le défunt étaient séparés. Amis et collègues du marché central faisaient également part de leur tristesse. Tout le monde semblait s'accorder pour dire que Frank Dunning était un type formidable et absolument personne ne voyait qui avait pu lui en vouloir. Tony Tracker semblait particulièrement scandalisé, sans doute parce que le corps avait été retrouvé dans son caveau de famille. « Celui qui a fait ça mérite la peine de mort », avait-il déclaré. Le mercredi 8 octobre, les Yankees l'emportaient face aux Braves, 2-1, au County Stadium. Le jeudi, ils clôturaient leur série en marquant 4 points dans la 8e manche, se sortant in extremis d'un score ex aequo 2-2. Le vendredi, je suis donc retourné chez Fratty, m'apprêtant à affronter Mr. Ronchon et Mrs. Grognon. La grosse dame se montra largement à la hauteur de mes attentes. Elle grimaça en me voyant et cria « Chazzy ! Mr. Plein aux As est là !» Elle disparut ensuite derrière le rideau, hors de ma vue et de ma vie. Fratty avait ce même petit sourire de Tamia que je lui ai vu pour la première fois au Lamplighter, lors de mon premier séjour dans le passé haut en couleur de Derry. Il tenait à la main une enveloppe rebondie au nom de G. Amberson. « Te voilà, cousin, » dit-il, « en chair et en os et doublement beau gosse. Et voilà ton butin. Oh, te gêne pas, raconte. » « Je vous fais confiance, » ai-je dit en mettant l'enveloppe dans ma poche. « Vous avez l'air bien content pour quelqu'un qui vient de lâcher autant de blé.
Oh, »« Je vais pas nier que t'as fait un sacré trou dans ma recette de la saison, » dit-il. « Un sacré gros trou. »« Mais t'inquiète, je me suis quand même fait quelques ronds, comme toujours. »« Oh, tu sais, si je suis dans les jeux, et c'est surtout parce que c'est, comment dire, un service public. »« les gens joueront toujours. » Et quand ils doivent empocher, ils empochent. Je les fais pas poireauter. Et puis j'aime ça, prendre des paris. C'est un peu mon dada, tu vois. Et tu sais ce que j'aime le mieux? Non. C'est quand un type comme toi débarque. Une vraie tête brûlée qui défie les probabilités et qui rafle tout. Ça renforce ma conviction que c'est bien le hasard qui gouverne l'univers.
Je me demandais si sa conviction résisterait à l'examen des feuilles de score de Hall.
J'ai pas l'impression que votre femme ait la même vision des choses.
Il a rigolé et ses petits yeux noirs ont pétillé. Qu'il perde ou qu'il gagne, le petit bonhomme à la sirène tatouée sur le biceps jouissait clairement de la vie. J'admirais ça.
Oh, Marjorie! Quand un pauvre bougre se pointe avec la bague de fiançailles de sa femme et une histoire à vous tirer les larmes, elle se transforme en une boule de guimauve. Mais question Paris sportif, là, c'est une autre histoire. Elle en fait une affaire personnelle.
Vous l'aimez beaucoup, hein, monsieur Fratty?
Oh, de tout mon cœur, cousin, de tout mon cœur.
À mon arrivée, Marjorie lisait le journal et elle l'avait abandonné sur la vitrine remplie de bagues et autres bricoles. Il titrait « Frank Dunning rejoint sa dernière demeure. Son meurtrier court toujours. » « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» j'ai demandé en montrant le journal. « Bon, je sais pas trop. Mais je vais te dire un truc. » Il se rapprocha de moi. Son sourire avait disparu. C'était pas un saint, comme la presse locale voudrait le faire croire. Je pourrais t'en raconter de belles, moi, cousin. Allez-y, j'ai tout mon temps. Son sourire a reparu. Ah, tout ne se dit pas, Adairy. Ça, j'avais remarqué. Je voulais retourner à Cossett Street. Les flics risquaient de surveiller la maison des Dunning pour repérer le moindre curieux aux allures de suspect, mais c'était plus fort que moi. Ce n'était pas Harry que j'avais besoin de voir, mais sa petite sœur. J'avais des choses à lui dire. Que même si elle était très triste pour son papa, elle devait aller faire la tournée des bonbons pour Halloween. Qu'elle serait la plus jolie, la plus merveilleuse princesse indienne que personne n'ait jamais vue. Et qu'elle rapporterait une montagne de bonbons à la maison. Qu'elle avait encore au moins 53 longues et belles années devant elle, et peut-être beaucoup plus. Et surtout, qu'un jour, son frère Harry allait vouloir prendre l'uniforme et partir à la guerre, et qu'elle devrait faire tout son possible pour l'en dissuader. Sauf que les enfants oublient. Tout enseignant sait ça. Et il se croit immortel. Il était temps pour moi de quitter Derry, mais il me restait encore une petite chose à régler. J'ai attendu jusqu'au mardi suivant. Dans l'après-midi, j'ai jeté ma valise dans le coffre de la Sunliner et me suis installé au volant le temps de griffonner un petit mot. Je l'ai ensuite glissé dans une enveloppe que j'ai libellée au nom du destinataire. Puis j'ai roulé jusqu'à la ville basse et je suis entré au Sleepy Silver Dollar. À part Pete le barman, le pub était désert, comme je m'y attendais. Pete regardait Love of Life à la téloche en lavant des verres. Il s'est tourné vers moi à contre-cœur, en gardant un œil sur John et Marcha, ou je ne sais plus qui. « Qu'est-ce que je vous sers ?»« Rien. Mais vous pouvez me rendre un service, qui vous vaudra un petit billet de $5. » Il avait l'air peu convaincu. «
Vraiment ? Quel service ?»
J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir. Donnez ça au type en question quand il se pointera. Il regarda le nom sur l'enveloppe.
Vous lui voulez quoi, Bill Turcott ? Et pourquoi vous lui donnez pas vous-même ?
Bon, je vous demande pas la lune, Pete. Voulez-vous laisser $5 ou pas ?
Bien sûr, du moment que c'est pas un sale coup. Bill est un chic type.
Non, c'est pas un sale coup. Ça pourrait même lui faire le plus grand bien. J'ai posé un billet de 5 sur l'enveloppe. Pete l'a escamoté et est retourné à son feuilleton. Je suis parti. Turcotte a sûrement récupéré l'enveloppe. S'il a tenu compte ou pas de son contenu, c'est une autre question. Une parmi tant d'autres qui resteront sans réponse. Cher Bill, vous avez un problème cardiaque. Allez voir un médecin sans tarder. Vous allez penser que c'est une blague, mais non. Vous allez penser que je n'ai aucun moyen de savoir ça, mais je le sais. Aussi sûrement que vous savez que Frank Dunning a assassiné votre sœur Clara et votre neveu Mickey. Je vous en prie, croyez-moi, allez voir un médecin. Un ami. Je suis monté dans ma Sunliner et en reculant, j'ai vu le visage maigre et méfiant de Mr. Keane me guigner depuis le drugstore. J'ai baissé ma vitre, tendu le bras et je lui ai fait un doigt d'honneur. Puis j'ai pris par Up Mile Hill pour sortir définitivement de Derry.